Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Cet épisode est spécial car je reçois à mon micro deux invités qui ne vous sont peut-être pas inconnus si vous les suivez déjà sur les réseaux sociaux. Pierre Dubol du compte Instagram Sexopsycho et Léa Butine du compte Instagram du même nom, Léa.butine. Je les ai invités pour deux raisons. La première, c'est qu'à tous les deux, ils regroupent une communauté de presque 90 000 abonnés, rien que sur Instagram. J'avais envie de savoir comment se passe la création de contenu et surtout l'envers du décor. Et la deuxième raison, elle touche un peu plus au personnel et à l'intime. Ils sont tous les deux en couple depuis 3 ans. Ils sont en couple ensemble et s'affichent maintenant publiquement. Léa est diplômée d'une licence de psychologie et est constamment à la recherche de tout ce qui nous donne le pouvoir sur notre vie sexuelle. Elle partage des informations pédagogiques autour de la sexualité avec ses très belles illustrations depuis maintenant plus d'un an avec son compte Instagram. Pierre est psychologue clinicien spécialisé en TCC et en sexualité. Il accompagne des psychologues qui se lancent en libéral avec des supervisions sur Ose ton lib. Pierre a également créé sa page Instagram Sexopsycho en juin 2020 et également l'auteur de 2 livres. Je laisse place maintenant à cet épisode super intéressant et amusant, vous verrez, on rigole beaucoup. Je m'excuse d'avance pour le son, où des fois il n'est pas très quali, mais ça reste vraiment à des infimes petits moments. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la toute fin. Léa, Pierre, bienvenue sur le podcast.
Merci.
Bonjour.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Bah oui, ça fait plaisir de vous avoir tous les deux comme ça, pour moi toute seule. comme on se disait sur Instagram, c'est vrai que bah voilà, on échange par message, mais on n'a encore jamais passé une heure ensemble. Donc merci pour votre temps. Du coup, comment va se passer cet épisode? Ça va être en deux parties qui vont être un petit peu entremêlées. Avec la première partie, bah, se concentrer d'abord sur, on va dire, votre métier. Psy pour Pierre, Léa illustratrice, tous les deux créateurs de contenu sexo-éducatif, comme j'aime le dire. Et puis la deuxième partie, un petit peu plus intime, un petit peu plus privée, mais qui mélange aussi le public, sur votre couple et ce que ça fait quand on est tous les deux sexologues slash éducateurs, éducatrices sexuelles et en même temps couple public, hein, c'est ce qu'on peut dire, avec tous les abonnés que vous regroupez. Alors, pour commencer la première partie, donc vous êtes lancés tous les deux en 2020 et 2021, si je ne me trompe pas, avec vos comptes Instagram. Et j'aimerais savoir ce qui vous a motivé à partager des contenus sexos sur les réseaux. Et voilà. Et Pierre, si tu veux commencer, puisque tu as été le premier, je crois, à te lancer.
Ah, c'est vrai que moi, du coup, j'ai lancé mon compte le 2 juin 2020. Donc, du coup, ça a fait 2 ans, au mois de juin. En fait, au départ, c'était surtout... En fait, j'ai découvert Instagram en tant que consommateur en même temps que j'ai créé mon compte. Donc, du coup, je ne connaissais pas du tout les codes ni les comptes Instagram déjà qui parlaient de ça. Mais c'est surtout que je voulais faire exister mes outils, mes exercices thérapeutiques, tout ça, ailleurs que dans mon cabinet. Je voulais que ça soit un peu à ciel ouvert. Et je me suis dit, le top, ça serait que je fasse une dizaine de posts sur des troubles ou sur des outils, du coup, sur Instagram. Si j'ai 300 abonnés, c'est super. Et du coup, ça a tout de suite marché. J'ai pris à chaque fois 2000 abonnés par mois et il y avait une demande, donc j'ai continué. Et donc voilà, je suis là tant qu'on a besoin de moi. Voilà.
Ah, bravo pour ce travail et cette lancée fulgurante. Donc bravo.
Merci beaucoup.
Et pour toi, Léa, qu'est-ce qui t'a motivée à faire tes illustrations ? En plus, au début, si je me souviens bien, tu représentais cette abeille, on ne te connaissait pas, tu n'avais pas de visage sur ton nom. Et à vrai dire, honnêtement, je pensais que tu étais un homme. Derrière ce compte.
Rigolo.
Et quand j'ai découvert que c'était une femme, j'étais là, ah bah, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai pensé ça, tu vois.
Donc... Moi aussi, je croyais.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'illustrateurs sur tout ce qui concerne les illustrations érotiques. En majorité, moi, j'ai pu l'observer, il y a beaucoup d'illustrateurs plus que d'illustratrices. Mais alors, ce qui a fait que je me suis lancée à la base, c'était déjà parce que je découvrais un petit peu ma tablette et l'application pour dessiner un petit peu. J'avais envie de dessiner, j'avais envie de créer, je savais pas comment m'y prendre. Et j'ai toujours été en quête, de m'accepter, d'accepter mon corps. C'est vraiment un grand, grand sujet dans ma vie. Et je me suis dit, vas-y go, on tente des trucs un peu érotiques. Donc voilà, je me suis lancée. Et en fait, après, je me suis dit, ah, je veux partager, je vois qu'il y a des gens qui le font. Je veux partager, je veux avoir leur avis, je veux qu'on en discute. Et petit à petit, j'ai des gens qui se sont abonnés, avec qui j'ai discuté, des personnes qui m'ont demandé que je les illustre. Donc, ça a été... J'ai découvert la confiance qu'on pouvait placer en moi et j'étais « Waouh !» C'est trop chouette. Et en fait, petit à petit, j'ai moi-même m'intéressant à la sexo vraiment depuis très longtemps, j'ai eu envie de profiter, on va dire, de ma visibilité pour aussi porter ma voix. Donc au début, je l'ai fait un petit peu, dans les pas de Pierre, parce que je ne connaissais, je connaissais que lui, que ce qu'il faisait. Donc je me suis dit, on va essayer un petit truc un peu pareil. Et puis petit à petit, je me suis émancipée et puis j'ai réussi à porter ma propre voix avec mes propres designs, ma propre façon de faire. Donc ouais, je suis très contente de toute cette petite évolution.
Et tu peux l'être, c'est vraiment chouette. Et tu vois, je pense que j'ai été biaisée parce qu'effectivement, déjà, il y a beaucoup plus d'illustrateurs, peut-être hommes, mais surtout des dessins qui représentent la sexualité, des trucs très sexualisés. En fait, je me suis dit, il n'y a qu'un homme pour dessiner ça. Et finalement, non, je me suis trompée, j'étais biaisée. Donc, bravo pour ton travail.
Merci. C'est vrai qu'en plus, c'est souvent des corps féminins. Donc, vraiment, avec des poitrines. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que tout de suite, un homme irait directement là-dessus. Et en fait, c'est que les hommes sont beaucoup plus frileux à poser pour des photos sensuelles que les femmes. Donc, de manière générale, des femmes. En tout cas, j'ai échangé avec beaucoup de femmes cisgenres et d'hommes cisgenres. Et ça a été beaucoup dans cette direction.
Et d'ailleurs, du coup, je voulais vous poser la question aussi, puisque maintenant, vous avez deux années de recul à peu près par rapport à ça. Quelle est l'évolution, si vous avez vu une évolution des mentalités par rapport à l'éducation sexuelle et des abonnés, des retours que vous avez ?
Alors du coup, moi je vois déjà une évolution, on va dire, depuis 2017 où j'ai commencé à pratiquer. Donc du coup, je vois vraiment les choses qui sont en train de bouger. Et en même temps, 2017, il y a eu plein de choses significatives. C'était le mouvement MeToo qui était depuis 2016. Il y a eu aussi l'apparition du clitoris dans les manuels scolaires des SVT. Enfin, il y a eu en fait du visuel, du support physique qui s'est posé. Et après, quand moi je suis arrivé en 2020, j'ai l'impression qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui parlaient de sexualité, donc je saurais pas dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a énormément de sexualité dans même des sujets à côté. Par exemple, je suis activement du coup un compte qui parlait d'alopécie, et du coup, la personne s'est sentie aussi à l'aise d'aller sur des thématiques sur la sexualité par rapport en lien avec son sujet principal. Donc en fait, j'aurais pas tendance à dire qu'il y a une évolution en soi, enfin si ce n'est dans quelques mentalités évidemment, mais plutôt le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se permettent de l'introduire dans leur sujet de prédilection, dans leurs expertises. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai observé.
Oui, c'est vrai. Dans plusieurs, même des comptes qui parlent d'argent et qui maintenant mélangent aussi, enfin qui mélangent, qui introduisent aussi la part de sexualité. C'est vrai, il y en a de plus en plus qui se permettent ça parce que de par leurs expériences personnelles ou même professionnelles, etc. Donc, ok, plutôt une évolution où la diversité, finalement, ouais. Des sujets qui sont liés avec la sexualité. Ok. Et pour toi, Léa?
Alors moi de mon côté j'échange avec beaucoup d'hommes cis déjà, faut le savoir, c'est que sur mon compte j'ai une majorité de femmes, en revanche les personnes avec qui je parle le plus ce sont des hommes, et ce que j'ai pu observer dans leur discours c'est que ils sont vachement plus au clair, ils sont vraiment plus au clair sur le fait que la sexualité c'est quelque chose qui peut s'apprendre. On m'a plusieurs fois dit, je pensais que juste ça, enfin, on se débrouillait un peu dans le lit et puis on apprenait au fil du temps. Et on m'explique avec notamment mon compte, mais aussi tous les autres comptes sexo qui existent, des personnes découvrent que vraiment on peut apprendre à mieux vivre sa sexualité, à vivre sa sexualité tout court. Et je trouve ça beau et chouette. Enfin, moi, c'est dans ça que je trouve qu'il y a une évolution, c'est qu'on. On s'autorise à apprendre, enfin en tout cas à se dire que la sexualité est un domaine où on peut apprendre.
Oui, et que du coup les personnes apprennent vraiment aussi, alors avant, et c'est encore beaucoup le cas, mais à travers les pornos, mais aujourd'hui c'est aussi beaucoup à travers les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, est-ce que vous diriez que, alors je ne sais pas si c'est une meilleure éducation sexuelle, mais je ne sais pas ce que j'ai envie de dire là-dedans, mais quelle est la place un petit peu comment, en fait, les réseaux sociaux ont remplacé l'éducation sexuelle et peut-être plus là la question pour Pierre, qui du coup, tu es formateur aussi à l'université, et quand tu traites de ces sujets-là aussi, est-ce que tu sens que tes élèves en face ont une approche aussi différente de par aussi tous ces contenus sexo qu'on trouve maintenant un peu de partout?
Alors c'est vrai qu'il y a des fois, par exemple en IFME, donc Institution de Formation des Métiers Éducatifs, donc ce sont des futurs éducs qui vont aller sur le terrain, en première année je peux faire un petit peu exprès de leur poser des questions un petit peu de base, mais en sexualité il n'y a jamais vraiment de base, hein, c'est propre à chacun, et je vois bien qu'il n'y a vraiment quasiment aucune connaissance sur, par exemple, ils n'ont jamais vu la forme d'un clitoris, si je leur parle de mythes, par exemple, ou de sujets, ils vont souvent mélanger plein de choses, il y a énormément de désinformation, plus qu'un manque d'information, et en fait, très souvent, quand je les retrouve en troisième année, souvent ils ont consommé des contenus sur les réseaux, ils suivent aussi des éducs sur les réseaux, qui eux aussi peuvent parler de sexualité, après ils vont se diversifier. Donc je pense qu'il y a vraiment un âge charnière en fait à 18 ans quand on sort du bac et après la construction peut-être par l'intermédiaire des études supérieures dans leur cas à eux, mais pour d'autres personnes je pense qu'il y a une consommation d'un esprit critique au début de l'âge adulte qui devient finalement un apprentissage. C'est exactement ce que disait Léa, en fait ils comprennent que la sexualité c'est pas quelque chose d'inné et qui doit être spontané, c'est au contraire un apprentissage, et peut-être parce que justement ils sont dans le fait de s'émanciper des discours qu'ils ont pu avoir auparavant, ils se créent leur propre identité. Donc je pense que les réseaux sociaux ça aide surtout les personnes à se créer une identité et du coup à vouloir faire valoir aussi leur propre vision de l'intimité, du consentement, parfois même des valeurs militante, enfin voilà. Donc je verrais plutôt les réseaux sociaux comme l'émancipation d'une identité que comme juste l'accès à de l'information, parce qu'il y a des fois des personnes qui suivent qu'un seul compte sexo et ça leur permet d'avoir ce questionnement-là.
Ouais, une réflexion et du coup se dire que finalement il y a des informations et en fait la sexualité ça s'apprend comme vous disiez et ça vient casser un petit peu les croyances, comme tu disais aussi Léa, des hommes cis en tout cas là dans tes abonnés qui te disent finalement, ah ok, il y a des choses que je peux apprendre et c'est aussi ok d'être dans cette démarche-là d'apprendre, parce que finalement, c'était peut-être ça aussi le challenge de se dire qu'on a tous et toutes à apprendre de la sexualité.
Moi, je sais qu'un homme avec qui je discutais m'a déjà dit, m'a déjà demandé vers quel support se tourner pour apprendre, pour découvrir des choses. Moi, je lui avais conseillé Jouissance Club, le livre Jouissance Club qui est vraiment génial. La cartographie des plaisirs, je crois. Et en fait, il m'a dit, oh, oui, mais si une femme voit ça en rentrant chez moi, qu'est-ce qu'elle va se dire? C'est vrai que moi, je me suis dit, elle va se dire que vachement cool. Je crois que je suis avec quelqu'un qui vraiment qui s'informe et qui va pas n'importe où, quoi. Et enfin qui sait quoi faire, mais plus ou moins. Mais du coup, ça m'avait j'étais surprise de cette réflexion qui doit certainement être générale, hein, mais...
Du coup, je pense que Léa montre aussi un phénomène qu'on retrouve beaucoup, qui est aussi très français, je pense. C'est un peu le principe un petit peu de... Quand il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de s'élever, de réfléchir à certaines choses, il peut vite être coupé dans son élan par des personnes qui ne veulent peut-être pas se remettre en question. Donc c'est vrai que du coup, Léa parle de ce... C'est un peu comme les personnes qui veulent mettre l'accent anglais quand ils parlent, et ils vont vite se faire recadrer par les gens qui vont dire « Ah ouais, d'accord, toi tu parles avec l'accent. » Voilà. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, du coup, Léa, elle a peut-être encore plus d'échanges avec des hommes, du coup, parce que... En ratio, je crois que t'as 34% d'hommes, un truc comme ça, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et puis les interactions sont majoritairement, viennent majoritairement des hommes de mon compte, que ce soit commentaires ou DM.
Alors que du coup, moi, j'ai que 14% d'hommes, et c'est vrai que les interactions que j'ai sont peut-être plus agressives, sont peut-être un peu plus, plus souvent plutôt pour recadrer que réellement pour apporter des discussions, on va dire. Et c'est vrai que du coup, Léa, elle peut vraiment voir cette part des hommes cis qui, justement, parfois n'osent pas élever leurs connaissances ou les supports parce que, justement, ils ont peur du jugement, ils ont peur d'être renvoyés. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de toxicité, la virilité toxique autour de ce sujet. Mais du coup, Léa, elle l'observe tous les jours sur son contenu, quoi.
Ouais, et encore dans les échanges que vous recevez, en tout cas là, si j'ai bien compris, des hommes cis, c'est encore différent. Léa, les hommes se remettent en question, sont plus, on va dire, se confient plus facilement à toi, et versus toi, Pierre, où c'est plus quand même agressif, comme si c'était plus compliqué aussi qu'un homme puisse leur expliquer comment la sexualité peut fonctionner ou les différentes choses. Est-ce que c'est de cet ordre-là ou est-ce qu'il y a autre chose?
Pas du tout. Je ne saurais pas dire. La question est très globale.
Après, je pense que c'est aussi dû au profil. Léa, elle a... Ah, excuse-moi. Donc, je pense que c'est aussi le profil. C'est Léa, elle a vraiment ce côté aussi... elle prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie à répondre à un maximum de personnes. C'est vrai que du coup, moi, j'ai de moins en moins le temps. Et donc, du coup, elle a aussi l'occasion de faire parler les gens sur leur blocage, sur ce qui ne va pas. C'est vrai que moi, du coup, de mon côté, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de messages de femmes cis, mais qui viennent du coup pour me poser des questions plutôt cliniques, plutôt de l'ordre de leurs problématiques, peut-être dans l'objectif d'aller déclencher quelque chose avec un ou une autre professionnelle. Donc ça aussi, ce qui est bien dans nos profils avec Léa, c'est que du coup on se complète, parce que du coup moi je suis peut-être sur la partie théorique et Léa elle est vachement sur la partie pratique, et on alimente ça aussi parce que c'est nos pattes, voilà.
Ouais, plus pratique. Et là tu soulevais quelque chose aussi d'important, c'est cette charge éducative finalement à travers les réseaux sociaux, mais aussi ce poids aussi qui est instauré de passer du temps aussi, de venir expliquer. Enfin, c'est tout un travail finalement thérapeutique qui n'est pas forcément rémunéré aussi via Instagram. Alors, ça peut être d'autres sources, de sponsoring ou quoi que ce soit, mais c'est aussi le temps qu'on y passe et puis le cadre aussi qu'on y met par rapport à ça. Je pense que ça demande beaucoup de temps, et comme tu disais, enfin, Léa, de répondre, d'informer, d'éduquer, ça doit être aussi une charge, j'imagine.
Ouais, c'est ce qui me vaut parfois même de stopper les réseaux. Là, à l'instant T, ça fait peut-être un mois que j'ai fait une pause sur les réseaux, des réseaux, parce qu'en fait, j'osais même plus ouvrir ma boîte de messagerie, parce qu'à un moment, ça devient aussi un peu lourd, parce que, puis, il y a tout ce mélange aussi de syndrome de l'imposteur, c'est que il y a une partie de moi qui veut partager mes connaissances et dire, voilà, de ce que tu me dis, voilà ce que je vois, je redirigeais énormément vers des psychologues, et je désamorce aussi le fait que faire une thérapie, c'est super, c'est chouette, une thérapie de couple, c'est aussi très chouette, mais c'est vrai que il y a aussi, à contrario, le moment où je me dis, mais je suis personne, moi j'ai une petite licence de psycho, je compte bien la transformer, mais pour le moment, je me dis, mais je ne suis personne, donc j'ai ce mélange d'être consciente d'avoir tout un amas de connaissances et en même temps de me dire donc bon, c'est voilà, Mais ça reste quand même très fort quand j'ai des retours hyper positifs. Une personne qui m'avait dit, par exemple, à qui on avait parlé beaucoup de bisexualité, c'était un homme de 50 ans qui avait une vie de famille et voilà, et il osait pas en fait, pas assumer, j'aime pas ce mot-là, mais vivre cette partie de lui. Voilà, donc on a discuté un petit peu, je lui ai dit un petit peu comment éventuellement il pouvait découvrir un peu, les relations avec d'autres hommes, parce que c'était ça le sujet. Et voilà, on a discuté, plus de nouvelles, et quelques semaines plus tard, il m'envoie un message pour me dire merci, nos échanges m'ont vraiment aidé à passer le pas, maintenant je rencontre des hommes super chouettes et tout, donc en vrai, voilà, c'est ces moments aussi hyper gratifiants de se dire ouais, j'ai peut-être aidé une personne dans sa vie, c'est énorme. Donc voilà.
C'est clair. Et du coup, d'aider et aussi, voilà, on parlait de vos comptes qui, comme tu disais, toi, Pierre, très rapidement, c'est vrai que ça a très vite augmenté. Mais même, je me souviens, je crois que t'es arrivé après moi, largement, tu m'as dépassé très rapidement. Et c'est pas une compétition, mais dans le sens où, vraiment, ce que tu partages, comme tu disais, tes outils ont vraiment eu un impact. Et dans vos comptes, et peut-être que c'est différent pour l'un et l'autre, quelles sont les thématiques que vous avez l'impression qui plaisent le plus aux personnes qui vous lisent, qui vous écoutent ?
Moi, je sais que quand je propose du concret, c'est-à-dire un poste pour la fellation, un poste pour s'occuper d'un pénis, un poste pour s'occuper d'une vulve, le concret, ça plaît, mais vraiment. Donc, avec en plus les touches d'humour. Les touches d'humour plaisent aussi beaucoup.
Donc, c'est vrai que t'en mets pas mal, ouais.
Moi, de mon côté, je pense que... D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Parce que avant, je diversifiais beaucoup. Je me perdais dans beaucoup de rubriques différentes. Et ça n'arrêtait pas de varier. Et je pense que il y a certaines personnes qui s'inscrivaient plus dans certaines dynamiques que d'autres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu tout fusionné. C'est que maintenant, j'essaie de donner à la fois de l'information, on va dire... que tout le monde devrait avoir, mais que quand on vérifie, il y a plein de gens qui ne l'ont pas. Voilà, en fait, c'est un peu ça mon leitmotiv. C'est si ça paraît évident, c'est que ça ne l'est sûrement pas. Voilà, c'est un peu ça dans l'idée. Et après, de toujours conclure avec des définitions, explications, et conclure avec toujours des pistes, soit pour commencer à le traiter, soit de son côté, si on peut faire en autonomie, mais aussi les pistes des professionnels à aller chercher. Voilà, c'est ce qui marche le mieux. Et après, le deuxième truc qui marche bien aussi, c'est quand du coup, ils voient un peu les coulisses aussi. J'ai une rubrique, c'est un court instant au cabinet. C'est toujours des posts qui marchent bien parce que les gens ont l'impression, du coup, de pouvoir un peu mieux se représenter de l'autre côté, en fait, du miroir. Et souvent, ils se rendent compte qu'en face, ils ont affaire à des gens qui ont les mêmes questionnements, les mêmes sensibilités qu'eux. Voilà.
Ouais. Donc, le concret avec des illustrations et une petite touche d'humour, quelque chose de très visuel pour toi, Léa. Et pour toi, Pierre, des pistes à explorer et effectivement l'envers du décor, ce qui permet d'humaniser aussi la profession aussi de psy et de sexologue et qui plaît vachement, en fait. Et rassurer. Et rassurer, je pense que ça aide, en fait, comme vous disiez tous les deux, aux personnes de se dire... c'est OK, c'est des personnes comme moi, je peux aller consulter si j'ai une difficulté ou une question parce que finalement, j'ai compris que ça pouvait m'aider, j'ai compris que c'était OK d'apprendre et je me lance, quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi la beauté des contenus sexo et principalement de vôtres. Donc, bravo pour ça.
Ça fait un peu bizarre que tu dises ça dans le sens où très souvent, nous, dans nos modèles, il y a ton compte. Donc, c'est pour ça que du coup... que tu nous dis ça à propos de nous, on se dit c'est un peu toi qui lance la... voilà. Et chaque poste est d'utilité publique à chaque fois. On sent que dès que tu as un truc à traiter... Mais bon, j'ai compris que ce n'était pas ton podcast aujourd'hui, donc je ne rajoute pas.
Aujourd'hui, je mets... Moi, quand je parle toute seule à mon micro, je me mets moi-même à l'honneur. Mais aujourd'hui, je mets à l'honneur, évidemment, mes invités. Donc, je suis obligée de vous mettre de la pommade, comme dirait celle de Biboost, Aline de Biboost. Je vous passe la pommade, je vous cire les chaussures, je vous lance le tapis rouge, profitez-en, prenez. du coup, on va aborder... tant mieux, c'est l'idée que ce soit agréable. On va aborder le deuxième pan parce que je pense que ça intéresse beaucoup de vos abonnés, même moi ça m'intéresse aussi parce que finalement j'ai appris il n'y a pas longtemps que vous étiez en couple, alors je ne sais pas si vous l'aviez déjà mentionné avant ou si cette information m'était passée sous le nez,
Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. Donc en fait, dans un premier temps, comme Léa du coup était en poursuite d'études, il y avait aussi l'idée de du coup de ne pas être étiquetée par les personnes qui pourraient éventuellement la recruter et tout ça. Donc l'idée au départ, c'était de protéger l'anonymat surtout de Léa en fait. Et moi en parallèle, j'étais aussi sur des vérifications en supervision, tout ça. Je fais des travaux assez complets avec mes superviseurs et superviseuses pour pouvoir savoir un peu quelle place donner aussi à ma vie perso sur les réseaux, sachant que c'est pas quelque chose naturellement qui me vient. Moi j'ai du mal, moi par exemple, faire des stories où on me voit longtemps parler, enfin c'est plus ponctuel. Moi j'aime bien le côté, voilà. Mais bon, on sent qu'il y a une demande, et puis comme par hasard, dès l'instant où on allait un petit peu plus vers le côté humanisant, hop, il y avait vraiment une réponse qui était aussi différente, donc ça alimente aussi ce côté-là. Et en fait, bah, quand Léa a commencé aussi à se montrer de plus en plus, il y a eu, je fais tout l'historique, il y avait aussi les réels où Léa, du coup, ne montrait pas son visage. Et souvent, ce qui se passait, c'est que bah, ça devait couper un peu la créativité, parce que du coup, tu fais pas les mêmes plans, tu sais, en fonction d'un réel, tu le fais pas de la même façon si tu l'as caché ton visage. Donc du coup, ça. C'est dommage, elle avait plein de créativité, mais elle pouvait pas l'exprimer. Et en fait, bah, du coup, quand elle a commencé à être sur les réseaux, bah, là, on a commencé à aussi avoir des photos un peu communes. Et bon, les gens, ils ont compris. Mais si vous me connaissez, vous m'avez forcément connu avec Léa, en fait. Mais c'est pour ça que les gens, ils pensent qu'on est en couple depuis peu de temps. Mais en fait, non, c'est notre visibilité qui est depuis peu de temps. Voilà.
Super intéressant. Et ouais, tu mentionnais quelque chose, effectivement, parce que moi, ce que je me souviens aussi quand j'ai créé mon compte, il n'y avait pas de sexologue. Il y avait Alexandra Hubert, mais qui n'était pas forcément active à ce moment-là. Et la question de ce qu'on m'avait appris ou ce que j'avais absorbé comme message, c'est que bah, faut pas se montrer publiquement, faut pas faire de pub, sa propre pub, faut pas faire tout ça. Et finalement, notre génération, et quand je dis génération, c'est peu importe l'âge, mais finalement, cette génération qui est arrivée entre 2017 et 2021 sur les réseaux sociaux a explosé tout ça. Finalement, tout le monde fait sa propre pub maintenant. Et il y a un petit peu aussi cette, j'ai l'impression qu'il y a, parce que ça tenait à cœur aussi aux personnes de, effectivement, d'avoir cette barrière entre privé et public. Parce que toujours cette question, mais attends, si tu racontes ta vie privée, les patients en face de toi, ils vont fantasmer ou ils vont imaginer maintenant des choses sur toi, ils savent tout de toi. C'était pour moi très difficile aussi, donc pendant longtemps aussi, puis même encore aujourd'hui, je mets vraiment cette frontière-là. Mais du coup, ça m'intéresse, Pierre, et puis bah, toi aussi, Léa, cette supervision, ce qui a fait que finalement, vous vous êtes dit, c'est OK de pouvoir mélanger tout ça finalement.
Bah, peut-être déjà Léa par rapport à... Parce que toi, ça a vraiment eu ces étapes-là marquées. Moi, je les ai pas eu autant, mais...
Ouais, moi ça a été bah, beaucoup une demande aussi de ma part hein, parce que moi j'avais l'impression au début d'être un peu cachée, un peu cachée au monde, et alors que moi j'avais juste envie de crier haut et fort, oh, c'est mon chéri, je l'aime trop. Donc, voilà,
Bah oui,
ça c'est
normal. Ouais.
du côté émotionnel pur. Mais ouais, bah, comme l'a très bien dit Pierre reprend beaucoup ce que je dis en l'expliquant, parce que de manière générale, même dans notre couple, Pierre a une meilleure faculté à expliquer les choses que moi qui m'embourbe vite. Donc c'est chouette.
Chacun son
Et
rythme, chacun, c'est la manière de s'exprimer, tu le fais très bien, prends ton temps, tout ce que tu veux.
Après, du coup, il y a aussi une réalité, c'est que la première année, je l'ai vécue seule, moi, sur les réseaux. Et j'avais aussi une première année, très grosse progression. Mais dans cette grosse progression, en fait, c'est que mon contenu s'est retrouvé mis en avant à plein d'endroits, et notamment à des endroits où tous mes critères un peu inclusifs, un peu parfois à la frontière du militantisme et tout ça, ne convenaient pas à certains des endroits où mes posts atterrissaient. Donc du coup, je recevais beaucoup, beaucoup de messages haineux, violents et tout ça. Donc il y avait aussi la volonté que ça vienne pas déborder aussi du côté de chez une abeille virtuelle. Voilà,
Ah
donc c'était
oui.
aussi ça. Et puis encore une fois, j'essayais d'avancer sur un chemin que moi-même je ne connaissais pas. Donc on était tous les deux un peu à l'aveugle. Aujourd'hui, on est un petit peu plus aguerri, mais c'est... Et puis surtout, on voulait vraiment éviter ce côté un petit peu, bah, même si dans la vie on peut se permettre d'être dans le fusionnement, bah, sur les réseaux, on voulait pas que les gens, du coup, forcément, soient que dans cette représentation de que le couple sexo et tout ça. Et la preuve, c'est que maintenant nos contenus ils se différencient de plus en plus. Donc c'est aussi ça qui est appréciable, c'est la complémentarité, c'est ça qu'on voulait mettre en avant, quoi. Voilà.
Complémentarité, et puis oui, je comprends de ne pas déborder, enfin que tous ces retours haineux ne débordent pas non plus sur Léa, qui n'avait rien à faire là-dedans, on va dire, si ce n'est... voilà, donc, et maintenant, c'est bien différencié. Qu'est-ce que ça te fait, Léa, de pouvoir maintenant voilà, afficher finalement, parce que tu disais voilà, que tu étais un peu dans l'ombre, et en plus avec tous ces enjeux, comme tu disais, de cette confiance en toi par rapport à ce syndrome de l'imposteur, puis en plus être dans l'ombre, aujourd'hui, j'imagine que ça te permet peut-être de respirer, d'être créative d'une manière différente, peut-être aussi.
Oui, bien sûr, c'est hyper chouette. Et puis, je suis toujours très fière de ce que peut faire Pierre. Donc, du coup, maintenant, je peux clairement le montrer, clairement, voilà, le dire sans avoir peur de me dire « Ah, mais peut-être qu'on va cramer, du coup, qu'on se connaît et tout. » Alors que non, non, là, c'est chouette. Là, en plus, même, on peut, je sais pas comment dire, on peut juste en fait partager des contenus ensemble, on peut interagir ensemble, et puis dans mes DM aussi maintenant j'ai des personnes qui me disent « Ah, j'adore ce que tu fais, mais j'adore aussi ce que fait Sexopsycho. » Enfin, c'est chouette, j'aime trop ce truc.
Ouais, on vous associe, on vous différencie et on peut vous associer aussi. Finalement.
C'est ça. On peut être invité à des événements, des choses comme ça, ensemble. On est tous les deux dans la même agence. Donc, y a vraiment le côté un petit peu, on a la possibilité d'être, de faire valoir notre propre chemin individuel avec nos caractéristiques. Et en même temps, bah, en fait, c'est notre réflexe. On veut vivre toutes ces choses-là à deux. Donc, du coup, même si ça concerne que l'un, par exemple, un événement, bah, on va forcément y aller tous les deux. Voilà. En fait, on veut savourer tout ce beau chemin ensemble parce que on est aussi conscient que les réseaux, c'est pas des choses qui peuvent, on peut pas se dire, ça, c'est pour 20 ans, 30 ans devant nous. Donc, du coup, on veut aussi profiter de cette belle période ensemble. Donc, en fait, si des gens nous croisent, ils nous croiseront souvent tous les deux. Donc voilà. Mais du coup, sur les réseaux, on veut recréer un peu cette idée un petit peu d'une équipe et en même temps que chacun puisse aussi vivre son aventure sans être trop, sans avoir obligé de répondre de tout ce que l'autre publie ou des choses comme ça, par exemple. Voilà.
Ah oui, de s'auto de slacker les uns les autres, de commenter, de renforcer. Oui. Mais c'est aussi chouette de voir ça, et c'est ça qui fait aussi que ça, voilà, ça permet de se sentir soutenu, quoi. Ouais. J'ai une question aussi, parce qu'on parle de couple, et je sais que dans vos posts et tout ça, c'est très inclusif. Est-ce que vous pouvez définir pour vous ce qu'est votre couple, finalement ?
Une raclette. Alors là, définir notre couple.
Moi, je peux m'y essayer.
Ouais, vas-y.
Je pense que, pour le moment, en tout cas, notre couple correspond à de l'écoute et surtout à un binôme, avant tout. C'est qu'on est vraiment dans la vie de tous les jours un vrai binôme, que ce soit émotionnel, que ce soit d'entraide, que ce soit factuel, enfin je sais pas comment dire, on est vraiment tout le temps, on a besoin de l'autre, on est vraiment on est très fusionnel. Donc certaines personnes pourraient avoir peur de ça, je sais qu'il y en a à qui ça parle pas trop, mais même nous, je pense pas qu'on l'ait été autant avant dans nos autres couples. C'est que vraiment là, on a du mal à faire les choses l'un sans l'autre, ou alors sans en parler à l'autre. Enfin bref, c'est ce qui rend aussi l'aventure Instagram incroyable, c'est que du coup, on est à deux. Il y en a qui se retrouvent très seuls dans cette petite aventure. Nous, on est toujours deux. Et ça, c'est très très fort. C'est très chouette.
C'est vrai que pour moi, Léa, c'est ma meilleure amie. C'est celle avec qui j'aime le plus débattre. C'est en fait, dès que il y a une victoire ou une défaite, on la vit à deux. Et puis, c'est tout bête, mais en fait, parfois, on oublie un petit peu aussi la chance qu'on a d'être deux personnes qui font la même chose sur les réseaux. Dans le sens où il y a des fois, en fait, pour nous, c'est des acquis. Et on va en soirée, on parle avec des personnes. D'un coup, on se rend compte d'une phrase un peu, alors qui peut nous paraître un peu trigger. Mais en fait, quand on réfléchit, on se dit, non, en fait, la majorité des gens pensent comme ça. C'est juste que nous, on l'a acté comme si c'était la réalité et pour tout le monde. Et puis c'est tout bête, mais on reçoit une collègue qui est créatrice de contenu sur les réseaux elle dort à la maison, et puis en fait elle fait une story, et puis tu sais, elle lance la chanson pour sa story et on l'entend en boucle le temps qu'elle écrit son message, et du coup, et elle s'excuse, elle dit oh, je suis désolée, je sais, ça saoule tout le temps mon copain quand c'est en boucle comme ça. Et puis nous, on se dit ah, oh, ben nous, on fait même plus attention, parce qu'en fait nous, quand ça le fait à l'autre, on sait. Et en fait, rien que ça, on se rend compte à quel point bah, y a des fois des personnes qui voudraient créer, qui sont peut-être coupées dans leur élan par les proches, qui ne sont pas forcément malveillants, mais qui juste ne comprennent pas ou disent « mais ça, ce n'est pas la vraie vie » ou des choses comme ça. Et en fait, voilà, nous, on a cette chance-là, c'est que quand on est hypé par quelque chose qui se passe sur les réseaux, on n'a pas l'autre qui ne comprend pas. Au contraire, on vit ça à deux. Donc l'enthousiasme est vécu à deux, les tristesses sont aussi protégées à deux. Enfin, voilà, on a eu 2 ans où il y a eu des très 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 belles choses et des choses très 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 moches. Et on a vraiment à chaque fois été, on a fusionné sur ces émotions, quoi. Voilà.
Ouais, c'est vrai, vous faites le même boulot, on va dire, sur Instagram, là, si on prend sur les réseaux sociaux, et il y a cette compréhension, finalement, puisque c'est quand même très particulier, c'est une bulle, et surtout dans la sexo, là, je parle pas de TikTok, parce que je m'y connais un peu moins, mais sur Instagram, c'est vraiment une bulle, et c'est vrai, finalement, quand on va dans le vrai monde, quand on va dans des fêtes ou dans des événements, on parle comme si on est sur Instagram dans notre bulle de sexo et finalement on se rend compte que ah non, on est rattrapé par en fait la réalité, ce qu'une majorité de personnes pensent encore de la sexualité. Et donc des fois, comme vous dites, ça peut rattraper et dire ah oui, ok. Mais là au moins, tous les deux en tout cas, vous vous comprenez parce que vous avez le même langage et le langage des réseaux sociaux et la passion aussi par rapport à ça. Et alors, j'entends qu'il y a pas mal de choses, voilà, couple passionnel, fusionnel. Donc moi, en tant que sexologue, je vais rebondir là-dessus. Parce que voilà, quand on parle de fusion, quand on parle de meilleurs amis, il y a, et des fois on peut l'entendre dans certains couples où justement, on voit plus que l'autre personne comme un partenaire, mais meilleur ami ou coloc, et moins comme quelque chose de désirable, de sexuel. Alors, je ne sais pas si vous voulez entrer là-dedans, mais comment ce métier que vous faites aussi ensemble et cette fusion ensemble, comment ça peut impacter votre vie intime, si ça impacte votre vie intime?
Je pense que déjà, le plus bel impact, on va dire, que ça a eu, c'est le consentement vis-à-vis de l'autre pour tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, mais le mot me paraît encore trop, trop faible. C'est-à-dire qu'on a tous les deux une sensibilité à écouter l'autre, à sentir l'autre, mais le fait qu'on soit sur les réseaux, qu'on soit baigné dans tout ça, dans ces petites astuces pour encore mieux s'occuper de l'autre, mieux prendre en compte l'autre, en fait, ne fait que renforcer nos moments intimes, finalement. Je me permets, mais c'est vrai qu'on a vécu des choses tous les deux intimes, ensemble. Je n'aurais jamais imaginé vivre ça avec quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, je sais que j'ai eu la confiance de repousser certaines limites et de me dire bah, « c'est génial !» et c'est vrai que je pense que ce côté un peu fusionnel me rassure aussi dans ces moments-là. Que quand je sens qu'on va vers quelque chose que je ne connais pas, soit on en parle, soit il y a ce truc de la confiance mutuelle de se dire « mais l'autre fait forcément attention à moi ». Donc enfin bon, c'est vraiment très chouette et c'est vraiment un sentiment que je souhaite à tellement de personnes.
Ce cadre rassurant, quoi.
Ouais, c'est ça.
Moi, de mon côté, j'étais surtout un gros solitaire, donc du coup, je définissais beaucoup mon identité par le travail. Donc du coup, c'était aussi ça que j'ai aussi. Je continue encore de travailler, et c'est pour ça que beaucoup de gens me disent waouh, t'as l'air de faire plein de trucs et tout ça. Mais en fait, la réalité, c'est que j'ai aussi quelqu'un à la maison qui m'apprend à me dire, tu sais que t'as le droit de jouer aux jeux vidéo. Ah ouais, ouais, t'as le droit de te poser devant ta PlayStation et juste passer 2 heures de ah ouais, ok, cool. Et en fait, c'est ça aussi. Moi, j'ai pu avoir, c'est quelqu'un qui m'a appris, j'avais le droit de suivre mes envies, mes besoins. Donc, c'est pour ça, quand Léa parle de consentement, c'est vrai que c'est au-delà, c'est presque. C'est prendre en considération les envies, les besoins de l'autre comme priorité absolue, comme sur n'importe quelle règle, n'importe quel principe de base. Non, c'est le besoin et l'envie de l'autre, et puis les siens aussi. Voilà. Mais c'est, en fait, c'est au-delà de réfléchir, parce que je pense que Léa et moi, peut-être auparavant, on était en couple avec des personnes qui fonctionnaient parfois par principe. Voilà. Par exemple, pas forcément des mauvais principes, mais juste par principe. Ça ne se fait pas. Principe, on ne va pas questionner là-dessus, ainsi de suite. Voilà. Et en fait, avec Léa, on a vraiment dit, ouais, hop, pof, on repart à zéro. Et viens, on reconstruit un monde à partir de nos envies, de nos besoins. Et en fait, bah, c'est pour ça qu'on aime bien être chez nous. C'est pour ça qu'on aime bien venir à deux. Après, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous éloignent tout au long de nos journées, rien qu'au niveau professionnel ou nos interactions avec des personnes. Bah, il y a plein de fois où, effectivement, bah, on n'est pas ensemble. Et voilà, on n'est pas non plus. On décède pas à la seconde où on se quitte, mais disons
que
c'est l'activité qu'on préfère le plus sur Terre, c'est se retrouver. Voilà, ça c'est sûr.
Sans pour autant être dans le sacrifice, c'est-à-dire que c'est vrai que Pierre disait qu'on met les besoins de l'autre vraiment en premier plan, mais on n'est pas dans un truc de sacrifice non plus. C'est-à-dire qu'on va mettre les besoins de l'autre au même niveau que nos besoins finalement. C'est que ils sont autant pris en compte que nos propres envies.
Oui, ça c'est important, c'est ce que j'allais dire aussi, parce que voilà, tu avais mentionné aussi ce besoin de l'autre, ce qui est important, mais que des fois certains couples ou certaines personnes sont complètement dans la fusion, qu'après n'existent que par l'autre, et ça évidemment à dire, voilà, c'est bien sûr d'être deux entités à part entière, que les besoins de l'un et de l'autre doivent être entendus, doivent être accompagnés, doivent être respectés, et ça vous le dites, donc c'est chouette quoi, c'est vraiment chouette. Et qu'est-ce que ça fait du coup d'être deux personnes qui partagent des contenus sexo-éducatifs, qui partagent des techniques? Est-ce que des fois ça ne met pas une sorte de pression sur votre vie intime, ou au contraire ça la motive, ça l'enrichit, peut-être même un peu des deux?
Moi je dirais les deux, d'autant plus au début de notre couple. C'est vrai que tout cet aspect sexo, moi je sais, était peut-être un petit peu, j'avais peut-être peur de ne pas assez bien faire. Bon, bah après, encore une fois, on a une très bonne communication qui s'est mise en place très vite, donc ça a été très vite balayé. Mais ouais, ça peut juste être le côté négatif peut juste être se dire, oh, est-ce que je fais assez bien par rapport, en tout cas, à ce que moi j'apporte comme information? Est-ce que je le fais assez bien pour avoir le droit d'en parler? Alors que, bon, concrètement.
Ah oui, c'est encore cette légitimité aussi, est-ce que je le fais assez bien? Alors, c'était pas parce qu'au début, je pensais au sein de la relation, est-ce que quand je fais cette pratique, c'est assez bien? Et j'avais presque envie de dire, bah oui, peu importe qu'on soit sexologue ou pas, on peut toujours se questionner vis-à-vis de ça, est-ce que ça plaît au partenaire et à la partenaire, etc. Mais là, c'est même bien plus, c'est est-ce que je suis assez bonne, entre guillemets, pour pouvoir diffuser cette information-là, et est-ce que je suis légitime, en fait, à le partager?
Ben, je pense que c'est aussi biaisé par rapport au retour parfois qu'on a. S'il y a des personnes qui peuvent vraiment se dire, pour parler de ce sujet-là, il faut forcément avoir une excellente pratique dans la vie de tous les jours, avoir tout testé, tout essayé, alors que justement, encore une fois, comme n'importe quel savoir, il y a parfois des choses qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir vécu ou pratiqué pour en avoir des connaissances. Et, enfin, moi, j'ai plus de facilité avec ça, parce qu'en psycho, on peut accompagner des personnes qui sont touchées par la schizophrénie sans soi-même avoir déjà eu des hallucinations auditives ou visuel. Donc il y a aussi cette réalité-là, c'est que parfois le fait d'être formé ou d'avoir des connaissances peut servir à aider sans forcément être soi-même personne concernée. Mais c'est important d'écouter les personnes concernées, évidemment. Bon, là où c'était un peu plus compliqué sur le raisonnement des réseaux, c'est peut-être plus en ma posture d'homme cis, genre, c'est dans le sens où il y a des fois, bah, dans ma relation, forcément, là, c'est une relation du coup hétérosexuelle actuellement. Donc du coup, forcément, il y a quelque chose où il peut avoir ce réflexe de se dire, bah voilà, est-ce que là, la réaction que je viens d'avoir, c'est pas la réaction de tout ce que je combats, justement? Est-ce que ça, le retour des privilèges, en fait, le fait que ça rejaillisse, t'as beau réfléchir ou questionner tout ça régulièrement, voire même de former sur ce sujet, tout ça, il y a des fois, hop, ça revient, ça repart, ça, voilà. Mais de la même manière que je pense qu'il y a des personnes dans l'autre sens qui sont peut-être victimes et qui du coup revivent aussi des vagues dans ce sens-là. Mais voilà, ça par contre, c'est vrai que pendant un moment, ça m'a beaucoup, heureusement, Léa était hyper bienveillante et à chaque fois m'aider à pas tout voir tout blanc ou tout noir, mais du coup, voilà, c'était ça. Par contre, pendant un moment, je me suis, puis aussi en fonction de ce que nous renvoient les réseaux, parce que tu as dit, il n'y avait pas beaucoup de sexologues quand tu as commencé. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui en parlaient, en fait.
C'est vrai.
Et moi, je pensais dès le départ, moi, je me suis dit, c'est ça qui va faire que je vais pas être visible. C'est que je suis un peu moins légitime que, voilà. Et en fait, c'est tout l'inverse. J'ai l'impression que d'un coup, il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est trop bien qu'un homme cisgenre s'en saisisse. Et j'ai dit, mais en plus, moi, je voulais pas être résumé à ça parce que du coup, moi, je venais en tant que psychologue presque, tu sais, c'était comme les anges. Ils ont pas de sexe. voilà. Et donc, du coup, forcément, quand on me renvoyait ça, je trouvais ça très limitant, et d'autant plus que je connais aussi les problématiques de d'avoir ce genre-là sur ces sujets-là. Et donc, du coup, voilà, c'est ça m'a plus dérangé que réellement l'aspect pratique de la sexualité, on va dire.
Ouais, alors que moi, pourtant, il n'y a pas beaucoup d'hommes sexologues, et pourtant, je trouve que justement, c'est encore plus simple d'avoir sa place. Par contre, de ce qui revient dans les retours, ça reste quand même si on est un homme cis sur un compte Instagram, l'audience majoritaire, et tu l'as déjà dit, Pierre, c'est quand même des femmes qui suivent, qui s'éduquent, en fait, finalement, sexuellement, qui
la se posent des
questions, qui prennent cette charge sexuelle, mentale, éducative, que ce soit en tant que quand on est derrière son écran à diffuser les informations, mais aussi à dévorer ces informations-là. Et probablement, dans mon podcast, il y a aussi une majorité de femmes. Donc, c'est quand même intéressant. Je ne sais pas si ça, on vous pose aussi cette question-là souvent aussi. Hein, on dit le cordonnier est le plus mal chaussé. Mais en tant que sexologue, dès qu'on dit qu'on fait des contenus sexo, qu'on est sexologue, les gens du coup se posent la question. Ils se disent, mais alors ta sexualité, elle doit être dingue. Ou alors, comment ça se passe, etc. Est-ce que vous avez des fois ce genre de questions? D'ailleurs, il y a les miennes de questions, mais est-ce que vous en avez?
Oui, moi, je sais que oui, on m'a déjà fait. Alors, il y a des commentaires ou des messages que je peux recevoir sur Instagram, plus ou moins bienveillants, qui me disent « Ah ouais, toi, tu dois être une coquine !» Je vais lui dire « Mais non !» Et ensuite, il va y avoir les personnes que je vais rencontrer dans la vraie vie, entre guillemets. Et pareil, on va s'attendre à peut-être que j'ai pu faire un truc de fou. Je pense que j'ai pu explorer des choses parce que j'ai eu la chance d'avoir le bon partenaire. Mais ça reste de l'exploration, ce n'est pas ma sexualité. Je pense que, une des positions préférées que j'ai, c'est être missionnaire, parce que tu peux câliner ton chéri. Et du coup, il n'y a rien de rocambolesque, mais juste, juste voilà. Mais c'est vrai qu'on peut nous prêter, moi, on m'a déjà prêté vraiment une sexualité de feu, de coquine, de ce que tu veux. Alors que, wow, non! Tout va bien. Je pense que je suis un être humain normal.
Oui, on s'imagine avec de l'extraordinaire, des choses vraiment incroyables pour que ce soit bien, alors que finalement, non, tu montres qu'on peut avoir une sexualité, peu importe en fait comment elle est, elle peut être tout à fait satisfaisante et elle n'a pas besoin de faire des acrobaties pour l'être. Et ça me rappelle une actrice X aussi, hein, qui disait effectivement, les gens projetaient ça sur elle, alors qu'elle, sa sexualité, elle disait moi, quand je suis chez moi avec mon conjoint, le missionnaire, j'adore parce qu'effectivement, c'est cocooning, on ne fait pas l'amour tant que ça. Mais les gens projetaient encore des choses parce qu'elle était actrice X. Ouais. Pierre, tu veux dire? Ouais.
Non, je pense que c'est les projections de personnes qui, justement, pensent qu'il y a des paliers dans la sexualité. C'est-à-dire que un peu comme des nivellements, en fait, pouvoir se dire plus on a d'informations, plus on va vers des pratiques, plus on a l'esprit ouvert ou des choses comme ça. Sauf que la réalité, avoir un esprit ouvert ou avoir, en tout cas, une ouverture d'esprit, c'est pas le fait d'avoir plus de pratiques dans sa vie ou d'expérience, c'est celui d'accueillir l'expérience de l'autre. Donc là, en fait, dans les remarques de ces personnes-là, moi, j'y vois plutôt une limite qui est une croyance. Et en général, on le reçoit peut-être, Léa et moi, quand on a ce genre de retour, on va plutôt pas forcément répondre à la remarque en elle-même, mais plutôt renormaliser, rebanaliser certains discours, comme dire de toute façon, c'est un partage, c'est avec la personne qu'on va trouver ça. Donc il y a des fois, avec certaines personnes, on a besoin de faire extraordinairement plein de pratiques, d'exploration, parce que ça fait partie de la dynamique. Il y a d'autres personnes où justement le fait, souvent j'aime bien dire, c'est un peu comme regarder des films le dimanche soir. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on a envie de se dire tous les dimanches soirs on teste un nouveau style de cinéma, un coup un western, un coup voilà. Ou alors il y a des fois où on se dit j'ai envie de regarder la même saga tous les dimanches, mais c'est notre rendez-vous. Et voilà, ça se trouve à deux. Et puis, il y a des fois, bah, on peut varier un peu, changer de dynamique. Mais voilà, cette croyance-là, j'y vois plus une limite ou quelque chose à accompagner, entre guillemets, que quelque chose qui pourrait nous être un peu vexant ou un peu nous mettre à mal ou des choses comme ça. Voilà. Mais après, voilà, la plupart du temps, c'est plutôt des gens qui ont des fausses croyances sur nous et qui vont peut-être essayer d'avoir, de nous séduire, mais d'essayer de nous envoyer des photos inappropriées, des choses comme ça. Enfin, voilà, ça va être plutôt, et que ça soit Léa ou moi, en fait, c'est contre-productif, mais fois 1000, parce que justement, on y voit quelque chose de très intrusif, très violent, très. Voilà.
Donc, imposé.
C'est pas le bon chemin. Voilà.
Ouais.
Et je me permets même d'ajouter que, justement, le fait d'être en couple avec une personne sensibilisée à la thématique de la sexologie de manière générale, je pense que dans ma vie, sincèrement, je n'ai jamais été aussi à l'aise aussi de ne pas avoir de sexualité. C'est-à-dire qu'on a eu des périodes où il n'y avait juste pas de sexualité. Je n'ai jamais été aussi tranquille sur ce point-là. Pas le fameux « Oh, mais là, ça fait 2 semaines qu'on ne l'a pas fait. Bon, on va peut-être falloir, je sais pas, faire un petit truc là pour lui dire que bon, je suis quand même un peu là. » Ou pour pas qu'il soit déçu ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que des fois, on a eu une traversée du désert et c'était très bien parce que c'était ce dont on avait envie à ce moment-là et c'était chouette. Enfin, c'était... ce que je veux dire, c'est que c'est chouette d'avoir l'esprit serein, en fait, juste de ne pas réfléchir, de ne pas aller au lit avec cette boule au ventre de se dire oh, « il va falloir que je passe à la casserole » ou « peut-être si je dis que j'ai mal à la tête » ou « non, j'ai mes règles » ou j'en sais rien. Enfin bref, c'est un plaisir.
Ouais, un plaisir de pouvoir vivre sa sexualité ou non-sexualité, et même encore, tu vois, là on parle de faire l'amour, faire de la sexualité, mais on peut très bien être dans de la sexualité sans passer par le faire, justement, faire l'amour, et vous le dites tous les deux très bien, en fait, c'est d'être à l'écoute du moment T, de ce qu'on a besoin, de cette dynamique de couple, d'être à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre, d'être serein, en fait, vis-à-vis et qui est de la sexualité, du faire ou du pas faire et de l'être ou non. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien aussi aux personnes de l'entendre, de finalement de se dire, derrière des contenus sexo ou des sexologues, en fait, on a une sexualité comme tout le monde, avec une fréquence qui peut varier, même des moments où on n'a pas de sexualité et on est très bien comme ça. On peut avoir aussi des moments où il y a des douleurs, des moments où il y a des différences de libido. On est des personnes avec la sexualité d'une personne lambda, quoi.
C'est ça, c'est complètement ça.
Et puis on peut aussi avoir des erreurs aussi, des choses où il y a des fois on a beau connaître, par exemple, des problématiques, je pense au sens plus large, j'ai pas d'exemples qui me viennent, mais par exemple, il y a des personnes qui peuvent vraiment culpabiliser d'avoir peut-être mal géré la contraception, ou d'avoir, j'ai pas d'exemples qui me viennent, mais en gros, il y a des fois où en gros, on pense avoir... en fait, voilà, ça arrive à tout le monde, même celles et ceux qui font du contenu, il peut avoir des erreurs, des manquements, enfin voilà, c'est des choses, c'est ok, voilà, c'est être humain en fait, juste, voilà.
Je suis d'accord.
Et pas se mettre de pression, c'est l'essentiel, quoi. Comme on le dit, hein, la pression, de toute façon, tue tout désir ou toute vie sereine, donc c'est chouette. Et est-ce que, avant ma dernière question finale, vous voulez partager quelque chose, autre chose par rapport à votre couple, quelque chose qui vous semble important par rapport à la relation ou autre?
C'est un gros enjeu, là.
Un apprentissage.
En fait, je l'ai dit dans un livre qui sort bientôt, je fais du teasing. mais en fait, il y a un truc que m'a appris Léa, mais plus dans notre relation que vraiment parce qu'on en avait parlé, c'est que j'ai souvent... Enfin, je me suis beaucoup construit en tant que garçon et tout ça, avec la phrase « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et donc, du coup, toujours à faire attention à ne pas trop prendre de place. En plus, moi, je suis très grand, 1m90, j'avais toujours peur d'être un peu là. Et en fait, Léa m'a appris quelque chose, c'est que la liberté des uns, c'est aussi la liberté des autres. C'est-à-dire qu'en gros, c'est que si on se met d'accord pour avoir des libertés ensemble, pour être libre, libéré, en fait, tout devient possible, on peut co-construire des choses formidables. Et en fait, je pense que on pourra jamais donner une explication sur comment Léa et moi on en arrivait là. Même nous, on n'arrive pas trop à comprendre quelles ont été les étapes qui nous ont permis de débloquer ces cheat codes. et il y a plein de fois où il faudra les retravailler, parce qu'on sait aussi que c'est pas pour toujours, évidemment. Mais par contre, il y a cette réalité-là, c'est qu'en fait, ça a toujours été à base de « si tu es libre, je suis libre aussi. Si on est libre tous les deux, on peut vraiment aller beaucoup plus loin que si, bah, en fait, on tire l'autre vers le fond, quoi. Voilà.
Je me vois pas ajouter quelque chose de plus pertinent.
Ça peut être plus pertinent, ça peut être juste pertinent. Ah, ouais.
Non, je réfléchis un petit peu, mais non, je pense que moi je reviens à cet aspect de liberté. J'ai découvert avec Pierre ce qu'était le vrai sens de la liberté et de se séparer de ces principes, justement, moi qui me pesaient sans le savoir, en fait. Je savais pas cette fameuse phrase de pourquoi c'est par principe. A toujours bloqué, je comprends pas. Et Pierre m'a offert dans notre couple, on va dire, beaucoup de nuances. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On n'est pas obligé de mettre des mots tout de suite maintenant sur ce qu'on ressent. On peut différer, on peut en parler plus tard. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui moi m'ont été inculquées ou que j'ai découvert au travers des personnes avec qui j'ai évolué. Et Pierre m'a aidé à me libérer de tout ça et vraiment me dire, ok, tu as ta manière de penser, tu as le droit d'exister, tu as le droit en fait d'exprimer ta manière d'être et ta manière de penser sans être puni et sans être, sans être blâmé. Donc c'est chouette et ça fait du bien. Je suis heureuse de vivre avec cet être humain.
Voilà, on n'a pas compris. C'est un épisode en fait où vous pouvez faire juste vous faire lancer des fleurs.
C'est mieux que les amours ici.
Punaise, mais grave, je vais faire ce nouveau concept en fait finalement. Comment, c'est ça la clé. Comment raviver ou comment que cette flamme puisse durer, cet élan érotique entre le couple. Invitez-les sur le podcast qui parle sexe ça. Et vous se lancer des fleurs tout du long.
On va en parler. On connaît des couples de créateurs créatrices qui pourraient très vite passé par toi.
Ah bah génial. Et du coup, ma question finale, et j'ai envie de vous entendre tous les deux par rapport à ça, et ça peut être bien évidemment des choses différentes. Si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité, de l'éducation sexuelle, voire de vos contenus, qu'est-ce que ce serait ?
Alors moi, ça c'est toujours sur un aspect clinique. Quelles que soient les problématiques, les troubles, les pathologies qui vous touchent, il y a des solutions existent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas dans des démarches thérapeutiques parce qu'en fait, ils ont peur de constater qu'il n'y a pas de solution. En fait, il y a toujours des solutions qui existent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles, ça ne veut pas dire qu'elles sont immédiates, mais il y a toujours des solutions quelque part. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour le côté très clinique. Voilà.
Merci. Ouais, j'aime bien ce... Il y a des solutions, pas forcément faciles, pas forcément immédiates. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il n'y a pas de recette miracle et comme ça avec une baguette magique. Donc, merci.
Moi, je pense que je dirais qu'il n'y a pas de, règles, il n'y a pas de code de conduite en sexualité. On me pose souvent la question en DM de me dire est-ce que ce que je fais là c'est bien, est-ce qu'il faut faire plus, est-ce qu'il faut faire moins. Ce qui est bien, ce qui est le mieux, c'est ce qui vous fait du bien à partir du moment où bien sûr les personnes concernées avec qui vous partagez votre sexualité sont ok. Mais ça peut être vraiment, pour reprendre la raclette, ça peut être, je sais pas moi, une levrette avec un peu de fromage sur le dos. Si franchement tout le monde kiffe, mais go quoi, on s'en fiche de qui a son mot à dire là-dessus, c'est votre intimité.
Je vais t'acheter moi ce genre de truc.
Tu viens de me débloquer un kink.
Oui, pareil.
Je suis très visuelle, hein, très visuelle toujours.
Tu peux nous faire cette illustration, s'il te plaît?
Oui, oui. Bon, voilà, pas de règles, tant que vous kiffez et que tout le monde est ok, vraiment, c'est le principal, quoi.
Ouais, vous construisez votre propre norme, comme dit Gwen Ekel qui est venue sur le podcast, c'est l'autonormie sexuelle, on se crée sa propre norme sexuelle, donc en fait... Faites ce qui vous plaît, peu importe ce que votre voisin, votre voisine fait, c'est vous, quoi. Vous au moment T, selon votre dynamique aussi, comme vous l'avez bien rappelé. Super, top. Alors, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver, peuvent vous poser des questions? Cet épisode sortira le 1er décembre, donc j'ai entendu qu'il y a une actualité, donc voilà, partagez tout ce que vous voulez partager.
Alors, où est-ce que les gens peuvent nous retrouver, à part au Flyer Tees Anime? C'est un bar. ils peuvent nous retrouver déjà dans l'agence Fresh Touch si jamais ils veulent nous contacter pour des événements ou pour des rencontres abonnées. Moi je vais avoir un livre qui va sortir d'ici la fin de l'année sur Amour, Sexe, Couple, le mode d'emploi d'une vie à deux. D'ici le 1er décembre, qu'est-ce qu'on va voir? Bah, on fait un teasing en toute exclusivité sur ton podcast et c'est la première fois qu'on en parle en public. Mais bientôt, Léa et moi, ainsi que d'autres personnes, nous devrions apparaître dans des formats à plusieurs. Et donc, du coup, la création d'une équipe, voilà, on vous dira en temps et en heure qui est dedans. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est une sélection drastique des personnes les plus safe qu'on a rencontrées et surtout des personnes qui avaient envie de co-créer avec nous. Donc, voilà, on vous prépare ça pour très bientôt. Voilà.
Génial, quelle info. Léa, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, on peut nous retrouver sur Instagram. Ou... Moi, mes DM sont toujours ouverts à n'importe qui, que ce soit pour des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Autrement, j'essaie de faire au mieux pour rediriger. Et ou si c'est pour faire un coucou, j'adore aussi. Si c'est pour faire des petites blagues, j'adore aussi. et voilà.
Et pas de dick pic, s'il vous plaît. On n'envoie pas de photos sans consentement.
Non. Pas de dick pic. Alors, je tiens à mentionner que j'ai une communauté, mais en or. Vraiment, je disais que j'interagissais avec beaucoup d'hommes et depuis que j'ai mon compte, alors c'est pas vraiment une fierté non plus, mais je n'ai reçu que 2 dick pics. Là où beaucoup de mes collègues, des fois, en reçoivent 2 par jour. Donc, j'ai une communauté où j'ai conscience d'avoir une communauté très bienveillante, très sympathique et voilà, très à l'écoute. Les débordements.
Ouais, tant mieux. Faut mettre aussi des limites sur les comptes. Mmh. Donc voilà, sur Léa.butine, ouais, et sexopsycho.
C'est ça.
Et ben je mettrai tout ça du coup dans les notes du podcast, comme ça les personnes pourront voir, cliquer, vous suivre, vous écouter en story, dans vos posts, un peu mieux voir l'envers du décor.
Bah, tous les deux, alors moi j'y suis déjà, mais du coup Léa va aussi y arriver, mais on sera bientôt à terme tous les deux sur Instagram, YouTube et TikTok. Voilà.
Yes, bon, bah, on va suivre tout ça de très près alors. Bah, Léa et Pierre, merci encore beaucoup pour votre temps, de nous avoir partagé tout ce qui se passe pour vous comme créateur et créatrice de contenu, et puis bah, du coup au sein de votre relation, comment vous figure it out tout ça, comment vous apprenez aussi en même temps que vous faites, donc super, merci beaucoup.
Merci à toi, merci beaucoup.
Merci à toi d'être... un de nos caps et de nos modèles dans tout ce qu'on crée. Très souvent, on regarde le phare qui nous ramène à bon port. C'est souvent des comptes comme le tien. Donc voilà, merci à toi surtout.
Oui,
mettez les larmes aux yeux. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous.
À bientôt.
Adieu.
Léa et Pierre, je les suis depuis un moment et c'était vraiment la première fois qu'on se prenait vraiment une heure pour échanger ensemble sur cette thématique sexo. Donc je suis ravie, j'espère que vous en avez appris aussi des choses sur déjà l'envers du décor des réseaux sociaux, pourquoi, comment ça peut remplacer l'éducation sexuelle ou comment ça peut complémenter l'éducation sexuelle qu'on peut retrouver aussi dans les écoles, dans les livres, dans des vidéos éducatives. Et puis leur côté un peu plus personnel, intime, qu'ils ont bien voulu nous partager dans cet épisode et savoir, quand on est 2 personnes sexologues qui font de l'éducation sexuelle et qui s'affichent publiquement, qu'est-ce que ça fait, quoi, en tant que couple. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser dès à présent plusieurs étoiles. Comme d'habitude, 5 de préférence, c'est toujours the must, le best. Je vous aime, je vous kiffe, merci beaucoup. Vous pouvez laisser ça sur vos plateformes d'écoute pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'écoute, justement. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre pote, à votre voisine, peut-être même à des patientes, patients que vous suivez, ou voire à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux en disant « Hé, j'ai bien écouté cet épisode, je pense qu'il pourrait te plaire. Tiens, passe une bonne journée. » Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe, où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.